nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Devenir son mari. Ce n'est plus une corvée, c'est un privilège. La tête qui tourne. Sa sœur, en les observant, devient jalouse. Elle se sent exclue de leur bonheur. La soirée se continue ainsi. Mathilde reste près de lui et continue à le présenter. On lui pose des questions sur sa nouvelle et comment lui, un homme, a-t-il pu faire pour entrer dans l'intimité des femmes. « Je les ai bien observés, » Mathilde lui demande. « Il vous a beaucoup aimé ?» Il répond. « Je ne sais pas, il m'en soucie plus. »« Pourquoi ? Vous n'aimez pas les femmes ? Je les adore. »« Mais tant que je n'avais pas trouvé la femme de mes rêves, je m'en souciais. »« Je me souciais peu de ce qu'elle ressentait à mon égard. » Mais je les ai observés sans le voile de l'amour, ce qui fait voir beaucoup de choses et à comprendre aussi. Et avec cela, j'ai pu écrire cette petite nouvelle. Et maintenant, vous avez trouvé la femme de vos rêves ? Oui.
Enfin, te voilà. Ta mère
oui, il y a peu de temps.
Elle t'attend dans la salle à manger.
Elle sourit.
Kitty, je vais la rejoindre. Puis-je te parler, Kitty ? Toi demain, nous avions prévu de faire des tas de choses.
Une autre fois, peut-être. Écoute, Dolly, je ne peux pas rester. J'ai gâché.
Après la soirée, dans son lit, elle ne pense qu'à lui. C'est la première fois après la mort de son mari qu'elle pense à un homme. Elle le trouve délicieux, bel homme. Il y a juste une chose un peu gênante, c'est son âge.
Ah, bonjour mon ami, comment allez-vous?
Oh, monsieur le docteur, ma jambe va beaucoup mieux, vous savez.
Le frère et la soeur, après la fête, s'en retournent accompagnés de Paul qui leur dit: je suis très satisfait de vous. Elle a mordu à l'hameçon. Vous irez à son rendez-vous pour la séduire.
Et dans quelques temps, vous
serez son mari.
Sec qui n'a pas desserré les dents.
Qui le laisse en bas de leur immeuble. Apolline n'est pas contente de cette soirée. Rentrée chez eux, avant d'entrer dans leur chambre, elle lui dit: faudrait bien laisser tomber Paul et son complot. Rentrons à Lyon. Il lui dit: non, nous sommes trop près du but. Je suis célèbre et bientôt riche. Si l'on arrête, tout s'écroule. Elle lui répond: tu es célèbre à cause de ton livre et non parce qu'elle va t'aimer. Avant de te connaître, tu étais déjà célèbre. Quant à... tu n'as qu'à recommencer à écrire. Si tu veux continuer à l'être. Si tu n'écris plus, même si tu es marié avec Mathilde, tu retomberas dans l'anonymat. Pas avec une femme comme elle. Fais attention, elle t'aime pour ton livre. Et si elle voit que tu n'écris plus, elle t'aimera moins. Maintenant que tu as acquéri la célébrité, nous n'avons plus besoin de Paul. Partons. Non, je ne peux pas. Et pourquoi? C'est comme ça. Bonne nuit. Et il entre dans sa chambre. Il sait qu'il aime Mathilde. Et s'il se marie avec elle, ce n'est pas à cause de Paul. Pour ce qui est des 10% de la fortune de Mathilde, tant pis, il les donnera. Elle vaut bien cette somme. Et ses livres la remboursera. Le lendemain, en fin de matinée, le frère et la sœur se retrouvent au salon pour le petit déjeuner. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Et lui dit: j'ai bien réfléchi. Je ne veux pas que tu revoies cette femme. Et pourquoi? Parce que nous n'en avons pas besoin. Tu es devenu célèbre sans son aide, et maintenant, tu écris. Tes écrits vont te rapporter suffisamment pour vivre. Après avoir fini de tartiner son pain, il lui répond: il faudrait que je puisse continuer à écrire. Que mes écrits plaisent autant que cette nouvelle. Elle hausse les épaules et lui dit: eh bien, tu n'as qu'à te remettre au travail. C'est pas si simple que ça. La création artistique ne se fait pas comme ça. Quand on veut, malheureusement, ce n'est pas l'artiste qui commande l'idée d'une œuvre. Ça vient d'elle-même. Et le créateur ne fait que ce qu'on lui commande. Lorsque l'on crée, c'est comme si l'on était guidé par un double. On n'est plus le même. Elle arrête et lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es plus capable d'écrire d'autres nouvelles comme celle-là? Je ne dis pas ça, mais l'inspiration, non. Et c'est pour cela que j'ai besoin de me marier avec une femme riche. Elle ose les épaules et lui dit, pour te faire entretenir? C'est dégradant. Il lui dit, que faisons-nous en ce moment? Ne sommes-nous pas entretenus par Paul? Eh bien justement, arrêtons tout ça et retournons à Lyon. Il lui dit, et tu crois qu'à Lyon, nous pourrons continuer à avoir du succès? Dans une petite ville de province, où quelques vieilles tiennent salon avec monsieur le curé? Bien, restons à Paris alors. Mais ne voyons plus ces gens, il lui répond, et nous irons retourner vivre dans un hôtel minable. Il pose sa serviette sur la table et se lève. Nous sommes presque au pied de la réussite. Ne gâchons pas notre chance. Et n'oublie pas, c'est qu'après c'est toi. Et il sort de la pièce. Elle se sent dans un étau qui la serre, la serre, la serre, la serre. À 15h, Charles-André sonne chez Mathilde. Un domestique lui a ouvert. Monsieur, je suis Charles-André Beaumandin, j'ai rendez-vous avec madame. Bien, monsieur, madame vous attend. Veuillez me suivre. Charles-André est entré et le domestique le mène au petit salon qui est au premier étage.
Entrez, monsieur. Et le domestique le laisse seul. Le salon est celui où a été reçu Paul. Charles-André regarde autour de lui. Il voit sur une commode une petite montre ancienne, en or et écaille. Il la prend pour mieux la regarder. La porte s'ouvre.
Ce qu'il fait sans sauter et sans réfléchir, il met la montre dans sa poche. C'est elle. Elle porte une robe beige, s'avance vers lui avec un sourire figé et lui dit « Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, mais j'avais une amie et j'arrivais pas à la faire partir. Asseyez-vous. » Elle le fait asseoir où Paul était assis et s'assoit à la même place. Elle lui dit, que voulez-vous? Ces dames sont curieuses et elles ont dû la désigner pour aller aux nouvelles. Comment allez-vous depuis hier au soir? Il lui dit, très bien, sauf que j'étais très ému à cause de votre invitation. Mais c'est ridicule! Pourquoi ému? Être invité par une femme comme vous, aussi jolie? Elle baisse les yeux et lui dit, Vous exagérez. Je ne suis pas grand-chose. Et vous êtes d'une grande famille, très connue. Pas autant que la vôtre. Elle arrête et lui dit. En tout cas, entre gens du monde, l'on ne risque rien. Paris est plein d'aventuriers. On ne sait pas très bien à qui l'on a affaire. Et du jour au lendemain, on risque de se trouver dévalisé par une personne que l'on recevait en toute innocence. Il ne se souvient pas de son acte et se dit que la conversation est mal partie, qu'elle doit être dans ses mauvais jours. Elle sourit et lui dit « Vous servir le thé ?» Elle appuie sur une sonnette qui est sur la table basse. On a frappé. « Entrez !»
C'est la bonne. Apportez-nous le thé, s'il vous plaît. Bien, madame.
Mathilde se détend et lui demande. Vous comptez rester définitivement à Paris? Je ne sais pas, mais je crois que je pourrais rester à Paris. Vous êtes en train d'écrire en ce moment? Je cherche, mais vous savez, l'inspiration ne vient que lorsqu'elle veut. Elle lui dit. Pas d'idée d'histoire, alors? Entrez.
C'est la bonne.
C'est la bonne qui va déposer le plateau à thé sur la table basse.
Elle sort de la pièce.
Elle lui dit, vous devriez écrire une histoire de vol. Oui, de vol. Puis elle sert. Du sucre, du lait, citron, 2 doigts de lait. Merci. Faut qu'elle servait, elle dit. Oui, une histoire de vol. Cela nous changera un peu de ces histoires d'amour. Il y aura au moins du mouvement. Vous trouvez pas que la vie est ennuyeuse? Moi, oui, je rêve d'aventure. Si le lecteur avait à lire ma vie, qu'est-ce qui pourrait s'ennuyer? Alors, mettez-nous un peu de piment dans nos vies. Tâcherai, madame. Se demande comment il pourra faire pour séduire une femme qui bouillonne de vie et ne rêve que d'aventure. Elle le trouve un peu penaud et triste. Elle a pitié de lui. Elle le trouve joli garçon. Pauvre petit chou. Elle sourit et lui demande « Êtes-vous vraiment le fils Beaumandin ? Parce que cela n'a aucune importance, vous savez ?» Si vous n'étiez pas, vous êtes si joli garçon. Il lui dit outré. Madame, je suis vraiment ce que je vous ai dit. Elle pose sa tasse et lui dit. Alors comment une personne comme vous est venue à mon invitation? Vous m'avez invité et l'on ne peut refuser une invitation d'une si jolie femme. Elle sourit et lui dit. Belle, pas tant que ça. Et je suis une femme veuve et plus très jeune. Vous êtes encore très jeune et belle, si je peux me le permettre. Merci. Ils ont fini de boire leur thé. Elle lui dit, allons nous asseoir sur ce canapé. Nous serons mieux.
Asseyez-vous.
Une fois assis tout près d'elle, il sent son odeur et cela l'enivre. C'est la même chose que lorsqu'il dansait. Elle lui dit « Je n'ai pas eu de chance. Mariée très jeune, avec un mari que mes parents m'avaient choisi, après quelques années de mariage, qui ont été plutôt des années de mondanité, mon mari meurt. Et me voilà enfermée jusqu'à la fin de mes jours dans le veuvage. Personne ne vous oblige, vous pouvez vous remarier. » Elle soupire et lui dit « Qui voudrait d'une femme de mon âge? Il y a tellement de jeunes filles belles et riches. » Il la voit triste, ose lui prendre la main. Elle ne la retire pas. Il lui dit « Mais vous êtes très belle. » Elle lui répond « Plus très jeune, ne dites pas de bêtises. » Il lui baise la main. Elle frémit. Cela fait si longtemps qu'aucun homme ne l'a touchée ou baisée. Elle ne sait pourquoi, mais depuis quelque temps, elle se sent surtout attirée par les jeunes hommes. Sans doute que pendant sa jeunesse, elle n'a pas eu la chance d'en avoir. Elle a tout de suite été offerte à un homme déjà bien mûr. Cela ne l'a pas gênée jusqu'à maintenant, mais... Il voit son abandon, l'embrasse encore la main, en le tenant bien serré dans la sienne. Il le regarde bien, les yeux dans les yeux. Elle dit « Je vais faire jouer le rôle de votre héroïne ?» Il lui répond « Non, pas du tout. Vous êtes beaucoup plus jeune, et là, je vous aime. Moi aussi. » Ne dites pas de bêtises, nous connaissons à peine, il lui dit. Cela suffit, la preuve, vous aussi. Ne dites pas de bêtises. Il lui caresse sa main et lui dit en même temps, laissez-vous aimer, car je sais que vous ne demandez que ça. Il se penche et lui donne un baiser sur la joue, puis, pris de vertige, par son odeur, son corps, qui sent sous sa robe, il l'embrasse sur les lèvres. Mais n'a pas eu le temps de réagir. Après le baiser, ils sont tous deux rouges et confus. Elle défroisse sa robe et lui dit « Je crois qu'il est temps que vous partiez. » Ils se lèvent tous deux.
Elle le conduit jusqu'à la sortie de la pièce, ouvre la porte et lui dit « Au revoir, monsieur. » Il est confus et lui demande « Nous reverrons, n'est-ce pas ?» Elle lui dit « Je crois que vous avez quelque chose dans votre poche qui est à remettre sur la commode. » Il rougit et sort de sa poche la montre. Elle lui dit, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est le bijou de ma famille. Elle tend la main, met la montre dedans et sort humilié, honteux.
Excusez-moi. Oui. Tu vends bien?
Oh, oui, c'est bon.
En se dirigeant vers chez lui, les joues en feu, furieux, honteux. Comment je puis faire ça? Je l'ai pas fait exprès, c'était comme ça, malgré moi. Elle va me prendre pour un voleur et tout Paris va le savoir. Ce sera terrible. Je n'oserai plus me montrer nulle part. Mon Dieu.
Merci. Ah, bonjour mon ami, comment allez-vous?
Oh, monsieur le docteur, ma jambe va beaucoup mieux, vous savez.
Arrivé chez lui, il va retrouver sa sœur au salon. Nous rentrons à Lyon. Elle le regarde bien surprise et lui demande « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?»« Rien, je veux rentrer à Lyon. D'ailleurs, toi aussi. » Elle se lève pour aller vers lui. Il lui dit « Oui, je suis contente de rentrer. » Il lui dit « Oui, comme cela tu verras Jules. Pourquoi tu dis ça ? Parce que vous êtes toujours ensemble. » Elle ouvre les épaules et lui dit « Peut-être, mais je suis partie avec toi. » Il soupire et lui dit « Bon, de toute façon, il faut partir. Allons, allons faire nos affaires. » Elle est surprise et lui demande « Nous prévenons pas Paul ? Non, surtout pas. » Elle lui demande « Tu n'aurais pas fait une bêtise, toi ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? Parce que ton départ ressemble à une fuite. Si l'on l'apprendrait, l'on penserait que tu as quelque chose à te reprocher. Si on a quelque chose à se reprocher, l'on ne fuit pas, l'on part. En faisant ses adieux, comme si de rien n'était, comme des gens qui sont sans reproche. » Réfléchit une seconde et se dit qu'elle a raison. Dès que les gens vont connaître l'histoire que Mathilde va leur dire, s'ils apprennent qu'ils sont partis, ils vont tous dire que c'était vrai. Mais s'ils restent un peu, il y aura doute. Il lui dit, « Nous partirons un peu plus tard, restons. » Elle lui demande, « Tu veux me dire ce qui s'est passé ? Allons nous asseoir sur le canapé. » Et il lui raconte tout. Une fois qu'il est fini, elle lui dit, « Il faut que tu lui écrives. » Et un petit mot d'explication. Ensuite, tu dois le plus vite possible écrire une nouvelle pour lui démontrer que tu es bien un écrivain et pas un aventurier. Tu as raison. Charles-André écrit d'une façon simple et vraie ce qui est arrivé sans chercher à trop s'excuser. La porte s'est ouverte. J'avais la montre à la main pour la regarder et d'instinct, je l'ai mise dans ma poche sans réfléchir. Il envoie tout de suite la lettre. Mathilde la reçoit et la lit dans sa chambre. Elle est touchée par la sincérité de la lettre. Le pauvre, comme il a dû avoir honte, et décide de lui écrire. Elle lui dit qu'il peut venir la voir le lendemain pour le thé et qu'il l'est pardonné. N'en parlerons plus. Lorsqu'il reçoit la lettre, il est fou de joie et court au salon dire à sa sœur « Elle me pardonne !» Apolline est contente que le scandale ait été évité. Mais elle est malheureuse malgré elle de savoir que son frère va avoir une liaison amoureuse. « Je l'aime lui aussi. Après Jules, c'est lui que j'aime. » Pourquoi le destin me fait-il aimer mes frères ? Charles-André va au rendez-vous de Mathilde. Elle lui dit, en le recevant dans son salon, « Venez, grand enfant, et ne faites plus de bêtises. » Ils passent l'après-midi à prendre le thé et à discuter de choses et d'autres. Mais en même temps, lui ne pense qu'à la prendre dans ses bras et à l'embrasser. Il la trouve merveilleusement belle. Elle aussi le trouve beau. Alors, une fois sur le canapé, il lui prend la main, puis la taille et ses lèvres. Dans ses bras, elle oublie tout. Même son âge, lui pas vraiment, il se rend compte, malgré lui, c'est que, en la prenant à la taille, elle est un peu plus large que celle qu'il a l'habitude de prendre. Mais l'amour est là et va outre. Au bout d'un moment, elle lui dit, « Il faut malheureusement nous quitter. » et continue. Il faut plus que l'on nous voyons ainsi. Devons faire attention. Je ne peux vous recevoir constamment. On risquerait de jaser. Vous voulez plus me revoir? Oh, ne dites pas cela, mon enfant. Mais nous devons faire attention. Il est triste, car il croit qu'elle veut faire de lui son amant, et lui souhaite qu'officialiser la chose. Il lui dit, mes sentiments sont sincères, et je suis prêt à vous rendre heureuse devant tous. Elle lui dit, étourdie, je vous remercie, mais c'est un peu tôt, il faut y penser, et puis il y a l'âge et la famille. Cessez de vous faire du souci avec l'âge. Je vous aime comme vous êtes. Et pour ce qui est de ma famille, je suis major, et vous aussi. Elle soupire et lui dit, oui, bien sûr, mais il faut bien réfléchir avant de faire une chose si sérieuse. Et si nous connaissons à peine, vous n'avez pas confiance en moi? Elle lui dit, où que vous j'ai confiance en vous, vos sentiments peuvent vous tromper. Attendons un peu pour mieux nous connaître. Il la serre fortement et lui demande, nous ne verrons plus alors? J'ai pas dit cela, mais d'une façon plus discrète. J'ai des amis, des domestiques qui m'observent. Paris est un petit village pour des personnes comme moi. Alors que devons-nous faire? Le matin, je fais du cheval au bois. Vous m'accompagnerez. Je vous donne rendez-vous place de l'Étoile à 10h. Bien. Et il se voit chaque matin. Charles-André a loué un cheval. Ils vont au bois de Boulogne, au pas, l'un côté de l'autre, se parlent de tout et de rien. Et lorsqu'ils sont éloignés des autres, ils s'arrêtent, descendent de cheval, pour se prendre dans les bras. La jeunesse de Charles-André le rend fou de désir. Ses lèvres ne lui suffisent pas. Il lui faut tout. Le désir de la posséder est très fort. Elle aussi ne demanderait que cela. Après l'avoir embrassé dans un bois, elle lui dit, j'aimerais devenir votre mari. Les baisers ont fait qu'agrandir ses désirs. Elle lui dit, attendons un peu, lorsque vous serez sûr de votre amour et que moi je vous connaîtrai mieux, nous pourrons prendre une décision. Et je suis sûr de mon amour. Et vous, vous n'avez qu'à me demander, me poser des questions pour savoir qui je suis. Elle lui dit, écrivez. Vous voulez que j'écrive mon histoire pour que vous la connaissiez? Bien soit, je le ferai. Et dès le soir, dans sa chambre, il se met au travail. Malheureusement, c'est pas si simple, parler de soi. Tout dire. Et peut-on tout dire? L'on se trouve trop insignifiant, misérable. Il a beau faire une liste de tout ce qui s'est passé dans sa vie, il n'y a rien, rien de bien. Il ne voit que le résumé d'une vie médiocre. Et il en a honte. Que faire? Que faire? Peut-être transformer les choses. Je vais raconter l'histoire que j'ai eue avec la femme pendant les vacances à Biarritz. je viens dire... Mais je vais dire que ça s'est passé en Espagne. Que faire? Peut-être transformer les choses. Je vais raconter l'histoire que j'ai eue avec la femme pendant les vacances à Biarritz. Je vais dire que c'est passé en Espagne. Que j'étais amoureux d'une jeune danseuse de flamenco qui vivait avec son père, très jaloux. Nous étions obligés de nous cacher pour nous voir. Nous aimions follement. Je l'aurais rencontré à une soirée où elle dansait dans un café du corps, du port. Tout à coup, elle a un malaise. Comme j'étais tout à côté, je me penche, la soulève, évanouie, et l'amène à sa cabane de pêcheur où elle habite avec son père. Dans le chemin, dans ses bras, elle reprend connaissance. Je vois de grands yeux noirs me fixer. Son corps est tout menu, ne pèse rien. Elle me demande pourquoi je la porte, je le lui dis. Frappe à la maison du pêcheur. Nous ouvre une vieille servante, grosse et petite, déposant la jeune fille dans son lit. M'en remercie et je pars. Le lendemain, je reçois à mon hôtel où j'étais avec mes parents une lettre remerciant et me donnant rendez-vous. Me donnant rendez-vous à la cabane le soir. Le père veut remercier. J'y vais. Le père, un petit homme maigre, me reçoit et me remercie. La jeune fille aussi. Puis, nous passons la soirée ensemble. Elle danse pour moi et me regarde avec des grands yeux noirs. Je suis amoureux fou de sa taille menue et de ses yeux. Nous revoyons souvent. Je la vois danser le soir au café et la journée sur la plage où elle ramasse des coquillages. Je suis de plus en plus amoureux. Et un jour, en jouant, nous n'avions que 14 ans, nous roulions sur le sable et là, elle est sous moi. Je suis pris de fougue et je lui donne un baiser. Elle s'est débattue et m'a giflé. Je me relève, elle se sauve en courant. Je suis désespéré. Elle me boude pendant plusieurs jours, s'éloigne lorsque je vais vers elle. Et un jour, elle me prend par la main, me caresse les cheveux et nous allons nous promener sur la plage. Sans qu'elle me le dise, je comprends. Elle m'aime. Nous restons des heures ainsi à nous regarder. Nous apprenons la déclaration de guerre. Mes parents veulent rentrer. Je suis désespéré, elle aussi. Décidons de nous enfuir tous les deux pour le Portugal pour ne plus nous séparer. Quand il faut de l'argent, je vole une montre à mon père. Il s'en aperçoit, prévient les gendarmes. Moi, je ne le sais rien. Je retrouve ma bien-aimée et nous partons à pied pour la frontière sans rien que la montre. Nous marchons deux jours. Un matin, que nous dormions dans les bras, l'un sur le côté de la route, nous sommes réveillés par les gendarmes qui nous ramènent chez nous. Mon père est furieux de cette histoire. Il me flanque une belle raclée et reprend la montre. Le père de la jeune fille l'a reprise et décide de l'enfermer dans un couvent. Moi, la pension en arrivant en France. J'ai le corps brisé, malade, je veux mourir. C'est mon premier chagrin d'amour. J'étais mis en pension et je ne l'ai plus jamais eu de nouvelles de la jeune espagnole. Il a fini de résumer cette histoire. Je crois que ça fera un bon petit roman. Il ne reste plus qu'à développer tout ça. C'est mieux qu'un souvenir. Ne pas oublier de bien décrire les troubles de l'adolescence, les rires, le corps qui se développe, le besoin de liberté. Prenons le temps, décrivons le plus possible de troubles. La surprise de voir ses poils pousser, les nuits, la honte d'être grand et les premiers émois. Ne pas se rendre compte au début que c'est de l'amour, un amour troublé par les désirs difficiles à cacher, etc. Il écrit tous les soirs dans sa chambre. Une fois que c'est fini, il donne le roman à lire à Mathilde lorsqu'ils prennent le thé ensemble. Il lui dit en lui donnant « Ça ne te plaît pas, je ne le ferai pas éditer. » Elle le lit, le trouve très beau. Mais est-ce vrai? Oui, mais ne sois pas jalouse. C'est une vieille histoire. Paul le fait éditer. Le livre, à cause de sa sensibilité, la description sans pudeur de l'adolescence avec ses troubles physiques et moraux, attire le lecteur, surtout les femmes. Enfin, elles vont savoir ce que ressent un jeune homme qui aime. L'histoire d'amour émouvante fait pleurer ces dames, ce qui fait rire ces messieurs et trouve le livre impudique et faux. Car ils ont honte d'avoir été ce jeune homme et veulent l'oublier. Ce livre le leur rappelle et montre au grand jour comment ils sont jeunes gens. Et montre comment ils étaient. Ils ont l'impression qu'on leur vole leur intimité. Le livre est décrié comme scandaleux, immoral par les hommes, et même pornographique et atteinte aux bonnes mœurs. Mais les femmes l'adorent et le lisent et en parlent. C'est un grand succès. Mathilde est heureuse, Charles-André aussi. Tous les gens veulent se l'arracher. Paul triomphe. Seule Apolline est triste car elle se dit que le succès est pour Mathilde. De leur promenade, Mathilde lui dit « Viens au moins nous voir pendant quelque temps. La cousine de mon oncle par alliance est en visite chez moi et elle restera quelques jours, le temps que je trouve un pensionnat dans Paris. Elle a 15 ans, mais désagréable au possible. » Il lui demande « Nous reverrons quand ? Venez demain pour le thé, je vous présenterai. » Et le lendemain, il est pour le thé au salon. Mathilde lui présente la jeune fille. Une jeune fille grande, mince, blonde, de visage encore enfant et rieur. Elle porte une robe marine à col marin. Ils sont debout tous les trois au milieu du salon. Monsieur Beaumandin, je vous présente mademoiselle Adrienne. Mademoiselle, monsieur. Ils vont s'asseoir pour prendre le thé.
Mathilde va s'asseoir en face des deux invités.
Dans le servant, elle dit à Charles-André, Mathilde habite la Bourgogne, charmante petite hameau dans un château du 18e. Elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a de vivre dans un endroit aussi beau. Il y a, Adrienne lui coupe la parole, j'aime pas la campagne. En France, il n'y a qu'à Paris que l'on peut vivre. Mathilde lui dit, tu auras bien vite assez. Adrienne hausse ses épaules et répond, sûrement pas. Et puis, je veux monter une maison de culture plus tard. Mathilde lui dit, c'est pas sérieux. Et puis, ce sera bien la première fois qu'une Saint-Aubin se lance dans les affaires. Une jeune fille comme il faut cherche à se marier. Mais cela ne m'empêchera pas de me marier. Il n'y a que très peu d'hommes qui acceptent que leur femme travaille. Elle hausse les épaules et dit, peut-être à votre époque, n'est-ce pas, monsieur Beaumandin, que cela ne gérerait pas que votre femme travaillât. Mathilde dit vexée. Sois pas un poli avec monsieur Beaumandin. Monsieur Beaumandin n'a que faire de tes impertinences. C'est un écrivain très apprécié. Il écrit des choses sensibles et intelligentes sur les dames. Adrienne lui dit, pardonnez-moi, je ne savais pas. Je croyais que c'était un jeune homme d'une de vos amies. Je ne pouvais pas penser, vu son jeune âge, que monsieur écrivait. Pardonnez-moi, monsieur. C'est pas grave. Et puis, ne m'appelez pas monsieur. Appelez-moi Charles-André. Vous écrivez quoi, monsieur ? Mathilde lui répond. Des choses qui ne sont pas pour les jeunes filles. Je ne suis plus une enfant tout de même. Jean-André lui dit. Je vous ferai parvenir mes nouvelles, si madame me le permet. Mathilde soupire et dit. 20 fois, si vous le voulez. Après une minute de silence, Jean-André demande. Et que veut faire mademoiselle comme étude ? Adrienne lui répond. Mes parents veulent que j'apprenne la littérature. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.